France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. C'est une opération pilote que celle proposée par Claire Bleton-Martin à Lyon depuis octobre dernier. Sous le nom de l'Année Lumière, cette éducatrice de l'école de santé sociale Sud-Est, dans le 9e arrondissement de Lyon, a imaginé un programme d'accompagnement des jeunes en fin d'études secondaires, des jeunes soucieux de s'orienter dans leur future vie active. Renforcement des compétences, immersion en entreprise et séjour à l'étranger sont proposés aux premiers bénéficiaires de ce dispositif. Explication tout à l'heure dans le second volet de ces carnets. Mais dans les Landes, à Mézos, nous partons à la découverte d'un lieu d'exception. À lire en parallèle l'article que Laurent Gibowski lui consacre dans les pages numériques de La Vie.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Thomas Janson, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous m'impressionnez, Thomas, avec votre grenier de Mézos. Alors, on dit que c'est un bric-à-brac solidaire créé en 2002. Dans le village de Mézos, alors j'ai vérifié, 840 habitants, on doit être à peu près dans cette fourchette-là.
C'est ça, on est pas très nombreux, et puis surtout on est loin de la première ville de plus de 10 000 habitants, elle est à 60 km d'ici, donc c'est vraiment un petit coin perdu. Ouais.
Comment est né ce bric-à-brac solidaire?
Au départ, en fait, c'est une poignée de personnes qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine, qui mettent leurs moyens en commun. Alors, c'est des petits moyens. Il y en a un qui prête un camion, l'autre un local, et puis quelques personnes qui se relaient pour recevoir des dons et les trier. Et les revendre si on peut.
Ouais. Alors, quel type d'objet vous recevez en don?
En gros, tout ce qu'il y a dans une maison. Ça va de la voiture qui est dans le garage au bibelot qui est sur la table de nuit, en passant par les lits, l'électroménager, les vélos.
Ouais. Et pourquoi on fait la démarche vers vous alors qu'aujourd'hui c'est devenu une coutume d'organiser un vide-grenier ou un vide-maison pour se débarrasser et éventuellement avoir un petit supplément financier, se débarrasser de ces objets?
Je pense que déjà c'est un peu compliqué de récupérer 3 sous sur des petits objets. On y passe souvent pas mal de temps, donc là c'est l'occasion de faire ça assez vite. Et puis comme notre structure, elle a essayé d'être sérieuse depuis le début, les gens ont l'impression ici que ça sert à quelque chose.
Vu le succès, 12 salariés autofinancés par l'activité, près de 500 tonnes de dons collectés par an, 3700 adhérents, près de 150 visites quotidiennes, vous n'avez pas été approché par d'autres grandes structures qui vous auraient peut-être éventuellement acheté ou absorbé?
Non, ça s'est pas présenté parce qu'on est un peu loin de tout. Alors, on est loin aussi de la convoitise. Et puis, il y a quelque chose, je pense aussi qu'ils savent bien que si l'histoire changeait de nom et de format, les donateurs s'en détourneraient. Je pense qu'il y a une histoire qui s'est forgée petit à petit entre l'équipe qui fait le boulot et les personnes qui donnent et celles qui achètent, qui sont bien souvent les mêmes. Hein. Ouais. Les gens passent d'un côté pour donner et après font un tour dans la boutique et remplissent leur voiture avec d'autres trucs. Quoi. Ouais. Donc c'est...
Ce qui est assez exceptionnel, c'est que il y a une volonté citoyenne de 18 ans. Aujourd'hui, ça donne presque une institution. Et je pense que si ça fédère autant de monde, indépendamment du fait que vous soyez en milieu rural, c'est qu'il y a un esprit propre au grenier de Mézos.
Je pense quand même que c'est des initiatives, il y en a pas mal qui se font, il y en a un peu dans toute la France. Nous, on a peut-être des spécificités qui sont pas extraordinaires, on a des spécificités, mais ce genre de démarche, ça se trouve quand même. On n'a pas inventé grand-chose, mais il y a des principes sur lesquels on reste bien fixé. Il y a des métiers, on sait que c'est pas les nôtres. Par exemple, la plupart des structures qui font ça sont des structures d'insertion. Nous, on a su dès le départ que c'était pas notre métier et qu'on allait créer des CDI, plutôt des postes définitifs, quoi, des postes à long terme dans notre structure. Et finalement, ça se retourne en notre faveur, oui. Puisque ça nous permet d'accumuler de l'expérience. Et du coup, on a une équipe qui est expérimentée sur un métier qui est pas évident, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans une maison, ça veut dire que c'est des milliers de produits différents possibles, et il faut être capable en une seconde là de dire, ça, on récupère ça, donc ça va se vendre, ça va pas se vendre, et si ça va se vendre, ça va se vendre à tel prix. C'est un métier compliqué qui s'apprend pas en 3 mois. Et je pense que c'est pas rien d'avoir un modèle qui permet de garder l'expérience à bord et d'avancer avec une équipe.
Et aujourd'hui, donc, de nouveaux locaux, 1500 m² et un atelier de fabrication et d'expérimentation.
Disons que la structure, elle a un peu grandi pendant 9 ans, les 9 dernières années, là, dans un local, et à la fin, elle était un peu prête à exploser. Du coup, ça nous a donné le temps d'avoir des idées. Mmh. Maintenant, on est dans un terrain qui fait 2 hectares où on peut s'étaler. Donc là, il y a 2 projets, en plus de l'activité historique, qui s'installent. C'est l'atelier, donc, et la cantine. Donc, l'atelier, c'est 160 mètres carrés qu'on a réservé dans le bâtiment, où on s'est dit, il y a tout un tas de flux que nous, on n'arrive pas à vendre, mais qui sont quand même intéressants, qui méritent mieux que d'être incinérés ou enfouis. Mmh. Et donc, on va utiliser cette matière première pour accueillir des bénévoles, des porteurs de projets ou des structures qui vont l'utiliser comme support d'échange de savoir-faire, insertion, etc. Enfin, tous ces métiers que nous, on ne sait pas faire, mais qu'on verrait bien dans notre périmètre, quoi. Mmh. Et en fait, on a fait ça au départ un peu comme un... On a ouvert ça comme une possibilité et en fait, c'est en train de se produire et on a de belles structures là qui investissent les lieux avec de beaux projets, quoi.
Impressionnant. 12 salariés, je rappelle, 150 visites quotidiennes, 500 tonnes de dons reçus triés par an avec le grenier de Mézos. Le site, c'est grenier-mézos.fr. Bravo Thomas.
Il y a toute une équipe derrière. Moi aussi, j'étais capable de faire ça tout seul.
vous saluez l'équipe. Vous saluez l'équipe de notre part.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Ce n'est ni la première fois ni la dernière fois, je vais vous parler de Solia. C'est Alison, ergothérapeute à l'association landaise de Solia, ça s'écrit S-O-L-I-H-A, qui me pousse à faire un rappel. Solia est le résultat de 90 ans d'engagement au profit des mal logés. À la naissance de l'association, on parlait d'ailleurs de lutte contre le taudis. Comme le phénomène était là toujours d'actualité, Solia, qui est la fusion du mouvement Pacte et du mouvement Habitat et Développement, s'est renforcée pour devenir le premier acteur associatif du secteur de l'amélioration de l'habitat en France. Fort de 140 associations et organismes locaux, Solia intervient auprès du grand public et des collectivités dans la réhabilitation des logements, dans la gestion locative et même dans la production d'habitats d'insertion. L'antenne des Landes intervient en premier auprès des personnes âgées, ce que fait Alison, notre correspondante, dans l'adaptation de l'habitat en prévention des chutes des personnes âgées à leur domicile, mais aussi auprès des personnes handicapées et des familles, que l'on soit propriétaire ou locataire. En 2017, Solia Land a traité la réhabilitation de près de 850 logements. Comme le signale encore notre correspondante, à juste titre, peu de personnes connaissent ce type de service que chacun ou chacune est en droit d'exiger. Je vous donne rendez-vous sur le site pactedeslandes.org. Claire Bleton-Martin, bonjour.
Bonjour.
Claire, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et fondatrice, directrice à Lyon de l'Année Lumière. Année Lumière, l'appellation est très jolie, on est loin des fêtes des Lumières, mais on est proche d'un itinéraire que vous proposez à chaque jeune, et en particulier les jeunes qui sont en manque d'orientation en particulier.
Tout à fait, et ils sont nombreux ces jeunes, puisqu'en fait quand on regarde les statistiques, on a 80% des jeunes qui disent qu'ils s'orientent, ou qui se laissent orienter plutôt. L'idée pour nous, c'est de se dire que c'est un âge, on va dire schématiquement entre 17 et 21, 22 ans, où il y a beaucoup de possibles, et où il est bien de prendre sa vie en main, d'entreprendre son avenir, et du coup de le réenchanter plutôt que de se laisser orienter. Sans trop réfléchir et se poser des questions parfois un peu trop tard, parce qu'on a quand même beaucoup d'échecs dans les premières années, voire maintenant une nouvelle tendance qui est la réorientation après un premier diplôme.
Très souvent, la difficulté, c'est de faire entrer les jeunes dans des cases. Et le souci est celui-là, alors qu'on oublie qu'il y a aussi un individu qui a peut-être des intentions, un rêve. Il faut encore pouvoir interroger ses rêves.
Tout à fait. Il faut se connaître pour ça. Et il faut voir comment sa personnalité, ses aptitudes, ses envies, le sens qu'on a envie de donner à sa vie peut coller avec notre société, les possibles. Voilà, l'idée n'est pas non plus de partir dans des choses, des élucubrations, mais bien d'avancer sur deux pas. Qui je suis? Quel est le monde qui m'entoure? Et comment je fais du lien entre les deux?
Oui, c'est ça.
Or, c'est un âge où on se connaît peu, parce qu'on a eu peu de temps et peu de moyens de s'interroger vraiment sur qui on est, et de manière positive.
Oui.
Quelles sont nos forces, nos talents? Donc l'idée, c'est de les accompagner dans ces interrogations et en même temps dans une découverte du monde qui les entoure, pouvoir faire des choix éclairés.
Alors l'année lumière ne dure pas aussi longtemps qu'on l'imagine, mais elle dure une année scolaire.
Elle dure une année scolaire, effectivement, qui peut s'apparenter à une année de césure, où on prend le temps, donc comme je le disais, de bien se connaître, de découvrir l'environnement et de découvrir le monde, tout en travaillant les compétences transversales. C'est-à-dire que on va construire des projets, on va participer à des ateliers qui vont nous permettre d'utiliser les compétences qu'on a apprises au sein de son parcours éducation nationale, de les mettre en œuvre et d'apprendre en faisant et de découvrir, d'expérimenter, de se tromper, d'analyser pourquoi on s'est trompé, de réfléchir à la manière dont on fait les choses et dont on pourrait les faire autrement pour être plus efficace et plus, plus aligné avec ce qu'on est. Mmh. L'idée, elle est là.
Ouais. Les 20 jeunes qui font leur rentrée dans cette formation exceptionnelle de l'année Lumière, ne sont-ils pas un peu privilégiés par rapport à d'autres et tellement nombreux les autres qui cherchent aussi leur voie?
Alors, on démarre tout juste, donc effectivement, on a une promotion pour l'instant. Ils sont privilégiés parce qu'ils prennent du temps pour eux. Et moi, il me semble que la France, par rapport à d'autres pays, ne laisse pas assez le temps à ces jeunes de se questionner et vraiment de creuser. Et les études montrent, notamment dans les pays scandinaves, qui sont mon pays d'inspiration, particulièrement le Danemark, que quand on laisse les jeunes, quand on leur laisse le temps, mais un temps accompagné, un temps où ils peuvent essayer, eh bien, ils ont les ressorts en eux et ils trouvent les capacités après de prendre leur vie en main. Et l'idée n'est pas tant de les orienter pour les mettre dans une case, mais de les outiller en posture qui leur permet de rebondir, de tricoter avec la réalité. Et on sait qu'ils ne feront pas un seul métier, ces jeunes, qui vont en faire plusieurs au cours de leur carrière. Et on les outille de manière, de posture, de savoir composer avec un monde qui change et qui est encore incertain, puisqu'on sait que dans les 30 prochaines années, c'est un coup digital, ça peut être l'intelligence artificielle, etc. Mais les choses changent. Et comment on peut changer avec le monde sans le subir?
Quelles sont les modalités d'inscription à cette formation?
Alors, on a des sélections qui visent non pas à sélectionner sur des compétences ou sur des notes, mais bien sur une envie d'accepter de jouer le jeu, de sortir de sa zone de confort, de se lancer dans une aventure, parfois d'introspection, et on les observe qu'ils ont envie d'y aller. Le seul prérequis, c'est d'avoir envie de jouer le jeu, à la fois pour soi et pour le groupe, puisque c'est des petits groupes promotion, et que le collectif est très important aussi pour le cheminement individuel.
L'adresse est année-lumière.org. Quelle belle nouvelle. Merci Claire.
Mais je vous en prie, merci beaucoup à vous.
À ma connaissance, Biotinel à Saint-Paul-les-Dax dans les Landes a été le premier magasin de produits bio sous statut de coopérative agricole à voir le jour en France. Si c'est pas le cas, vous pourrez rectifier, mais c'était en 2006. Tout a commencé par un groupe d'agriculteurs qui souhaitaient commercialiser leur production bio sur le marché de Mont-de-Marsan. Devant la demande des clients, un magasin a logiquement été créé, géré par les producteurs eux-mêmes au départ. Le magasin est maintenant tenu par 2 salariés dont le premier contrat fut signé en 2012. Parmi les produits phares du magasin figure la fameuse garbure landaise, le plat typique qui réchauffe le cœur et le reste, surtout en hiver. En chiffres, Biotinel, c'est plus de 60 producteurs et 1200 produits référencés. Biotinel.fr pour l'adresse. Merci à Nuro qui réalisait les carnets. Merci à Marie Mougin qui leur donnait du contenu. Merci à Tiffany Battistel qui leur donnait du volume aujourd'hui. Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet et Yann Paillet, c'est la dernière à Saint-Sever.